11h30, Infomag, Jean-François Baudin.
Débuter la refonte du système de santé, c'est l'objet de la loi de pays examinée depuis ce matin par les élus du Congrès. Du nouveau, après le drame de Wano ce week-end, l'auteur des coups de couteau mortel a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le projet de STEP à Tontouta se concrétise. Enercal et le gouvernement vont passer un appel à manifestation d'intérêt pour les entreprises calédoniennes qui veulent se positionner sur le chantier. Au Moyen-Orient, Donald Trump veut asphyxier l'Iran. Les USA ont mis en place un blocus du détroit d'Ormuz cette nuit pour nous. Mais en métropole, Sébastien Lecornu fait marche arrière sur sa volonté d'étendre la possibilité de travailler le 1er mai à certaines professions. Le texte a été retiré. Et puis en football, le PSG joue demain sa qualification en demi-finale de Ligue des Champions. Les Parisiens se déplacent à Liverpool après s'être imposés 2-0 lors du match aller. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal à l'issue duquel vous retrouverez comme tous les mardis le magazine Citoyen. Bonjour Nicolas Legrand.
Bonjour Jean-François Baudin.
Vous fêterez un anniversaire cette semaine, celui des 40 ans du SIFI Club.
Eh oui, c'est une institution en Nouvelle-Calédonie. À l'origine, c'était en 1986. Il y avait 5 passionnés, des fans de Star Wars, qui ont monté un mini-club. Depuis, évidemment, l'association a pris de l'ampleur. Elle a créé des événements marquants en Nouvelle-Calédonie, comme le Weekend Geek ou la Nuit du Fantastique, pour ne citer que cela. Et en 2026, elle est toujours très active et on va consacrer notre magazine Citoyen à cette association dédiée notamment à la science-fiction, à la pratique de jeux, à la littérature, aux films. On va revenir sur les origines, sur les événements marquants et sur les projets. Et pour ça, nous allons recevoir la présidente du SIFI Club, Marianne Tissandier, et un membre de longue date, Guillaume Hervouette.
Le magazine Citoyen a retrouvé donc dès la fin de ce journal. Nouveau round de discussion hier soir entre le Premier ministre Sébastien Lecornu et les partenaires calédoniens. Le Premier ministre a échangé en visioconférence avec le FLNKS à partir de 19h, puis avec les loyalistes, le Rassemblement et l'Uni à partir de 20h45. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette troisième étape, mais on sait que le Premier ministre veut multiplier ce type de rencontres pour garder le lien. En l'état actuel, la seule certitude, c'est que les élections provinciales seront convoquées le 28 juin et que la question du corps électoral est toujours en débat. Le Premier ministre a présenté les 3 scénarios possibles. La première hypothèse, c'est le maintien du gel du corps électoral. La deuxième, c'est l'ouverture aux natifs, aux conjoints et aux personnes présentes depuis plus de 15 ans, comme cela est prévu dans Bougival. Et la troisième hypothèse, c'est de discuter avec le FLNKS pour trouver une solution intermédiaire. Lors des discussions avec le Premier ministre, il a aussi été question de la consultation sur l'accord de Bougival, qui pourrait avoir lieu en même temps que les provinciales ou après le scrutin.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à la question d'hier et 71% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils ne pensent pas qu'un consensus va être trouvé sur l'ouverture du corps électoral avant les prochaines élections provinciales. Ils sont 29% à penser à l'inverse que ce consensus va être trouvé. Et voici notre question du jour. Les partisans de la France doivent-ils, selon vous, refuser de poursuivre les discussions avec le FLNKS s'ils refusent toute ouverture du corps électoral pour les provinciales. Si vous pensez qu'ils doivent refuser de poursuivre les discussions, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Débuter la refonte du système de santé, c'est l'objet de la loi du pays examinée depuis ce matin par les élus du Congrès. Le texte comporte 70 articles destinés principalement à améliorer l'accès aux soins. Une séance que suit pour nous Lionel Sabot que l'on retrouve boulevard Vauban.
Oui, Jean-François, les élus du Congrès qui sont réunis en effet en séance publique avec à l'ordre du jour, vous le disiez, de cette séance, un projet de loi du pays qui porte diverses dispositions en matière sanitaire et sociale. Loi de pays qui aurait dû être examinée il y a déjà quelques mois, mais le texte avait été renvoyé en commission suite au dépôt d'une motion préjudicielle. Alors ce texte contient, vous le disiez également, 70 articles pour débuter la refonte du système de santé afin d'améliorer l'accès aux soins. Il s'agit d'un texte en prélude à toute une série de mesures qui seront prises dans les mois et les années à venir. Parmi les propositions faites dans ces divers articles, la mise en place de dossiers médicaux dématérialisés et partagés, proposition qui a suscité quelques débats de forme et non de fond. Si tous les élus sont d'accord, évidemment, pour la mise en place de ces dossiers dématérialisés et partagés, ils s'inquiètent notamment de la sécurisation numérique de ces données. Autre proposition, elle concerne cette fois-ci les professionnels de santé avec la pénalisation de la facturation d'actes de soins non effectués. Alors il s'agit d'une amende administrative qui pourrait s'élever jusqu'à 1 million de francs maximum par acte facturé et non effectué. Une proposition adoptée par l'ensemble des élus qui se sont toutefois interrogés sur la problématique du contrôle médical et sur les moyens humains mis à ta disposition. Les discussions se poursuivent en ce moment même boulevard Vauban. Le texte de loi compte, je vous le disais, 70 articles et une trentaine d'amendements ont été déposés. À l'issue de l'examen de ce texte, les élus devront également examiner un projet de délibération portant diverses mesures en matière d'enseignement du premier et du second degré. En direct du boulevard Vauban, au congrès de la Nouvelle-Calédonie, Lionel Sabot, RRB.
L'effet divers est du nouveau dans l'affaire criminelle qui s'est déroulée à Wano samedi soir. Dans un nouveau communiqué, le procureur de la République indique que l'auteur présumé des faits a été mis en examen pour homicide volontaire et violence volontaire aggravée avec usage d'une arme. Il a été placé en détention provisoire. Rappelons que lors d'une fête arrosée samedi, il a donné des coups de couteau à deux personnes. L'une a été blessée à la main, l'autre a succombé à ses blessures après avoir été touchée à l'abdomen. L'auteur des coups de couteau a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de tuer ni de blesser. Il reconnaît avoir porté plusieurs coups dans la foule sans viser personne dans le but de se défendre et d'intimider le groupe. Il reconnaît aussi s'être servi d'un couteau de chasse pour signifier aux personnes qui organisaient la fête qu'il se trouvait dans un lieu appartenant à sa famille. Cet homme est déjà connu de la justice pour des vols aggravés et des violences volontaires. Le parquet indique qu'il a également ouvert une enquête en flagrance après la diffusion sur les réseaux sociaux de menaces proférées à l'égard de certains témoins de la scène. Ces agissements intolérables donneront lieu à des poursuites judiciaires, conclut Yves Dupas. 11h37, la première pause de ce journal. Dans un instant, on se retrouve pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Samedi 18 avril, c'est l'Electro Race, l'événement sportif le plus festif de Nouméa. 5 km Night Run et 7 en live avec DJ Bijon et DJ Lolo autour du centre culturel Jibao. Préparez vos baskets et vos tenues les plus folles. Ouverture des portes 18h, départ 19h. Inscription en ligne jusqu'au jeudi 16 sur le site inlife.nc avec l'opticien Dumbea Mall. Pour tout savoir, inlife.nc. L'Electro Race, ça n'est pas qu'une course, ce sera l'explosion nocturne de l'année. Un événement en fit énergie.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie est le début de la procédure collective qu'Aircal a engagée auprès du tribunal de commerce. Le conseil d'administration de la compagnie aérienne avait choisi, vous le savez, de déposer le bilan pour tenter de surmonter les difficultés financières d'Aircal. C'est en ce moment la première audience devant le tribunal de commerce. Elle devrait permettre de valider le gel des dettes de la compagnie, le temps d'établir un plan de redressement. L'objectif à terme est bien sûr la poursuite des activités d'Aircal sous réserve de la réouverture des aérodromes aux îles Loyauté, ce qui est pour l'instant très mal engagé puisque les collectifs d'usagers bloquent toujours les accès aux aérodromes de Marais, de Lifou et d'Ouvéa. Le projet de STEP de Tontouta passe dans une nouvelle phase. Le gouvernement et Enercal vont en effet passer un appel à manifestation d'intérêt, Nicolas Legrand.
Oui, le chantier pourrait ensuite débuter en 2027 pour une mise en service en 2032. Alors une STEP, c'est une station de transfert d'énergie par pompage. C'est un outil structurant pour le territoire car il s'agit d'une zone de stockage d'électricité. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, je vais vous l'expliquer étape par étape ou plutôt step by step. La journée, la Nouvelle-Calédonie produit plus d'énergie photovoltaïque qu'elle n'en consomme. Il faut donc stocker cette électricité. Et pour cela, il y a par exemple les batteries, mais aussi cette solution de STEP constituée de deux bassins d'eau, l'un plus haut que l'autre. La journée, l'électricité issue du photovoltaïque est utilisée pour pomper l'eau du bassin inférieur et la remonter au niveau supérieur. Et lorsque le soleil se couche, l'eau du bassin supérieur est renvoyée en contrebas. Elle passe alors dans des turbines qui produisent à nouveau de l'électricité verte, un peu comme fonctionne un barrage. Capacité de production, 35% de la consommation des Calédoniens hors métallurgie. Alors au-delà de cet intérêt écologique, il y a aussi un intérêt économique, nous a dit ce matin Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge du secteur.
On lance un appel à manifestation d'intérêt pour engager les entreprises calédoniennes dans ce projet, puisqu'on a besoin de relance économique sur ce territoire. C'est tout type de travaux qui vont être engagés, donc à la fois c'est des cabinets d'ingénierie, c'est aussi du terrassement, et c'est 22 milliards qui vont être réinjectés directement dans l'économie calédonienne dans une période où la Nouvelle-Calédonie a besoin de relance. C'est un effet de court terme de relance économique pour donner du travail aux entreprises calédoniennes et aux Calédoniens de manière générale, mais c'est un projet qui s'inscrit dans le long terme puisque ça permet d'avoir une transition énergétique du secteur de la métallurgie et donc d'alimenter de manière décarbonée mais également peu cher le nickel calédonien.
Et Nerkel présente cette STEP comme un projet comparable au barrage de Yaté, 60 milliards de francs environ, 4 années de travaux et plus de 60 ans ensuite d'exploitation. Jean-Gabriel Fagé, le directeur général d'Enercal.
Exactement, en termes de montant de travaux, en termes d'importance et de durabilité pour les 2, 3, 4 générations qui viennent, c'est effectivement un ouvrage comparable. Et Enercal est fier de pouvoir le porter après avoir été créé il y a 70 ans à partir du barrage de Yaté. Un gros chantier, indispensable à la relance de l'économie locale, indispensable à la poursuite de la transition énergétique et notamment pour la métallurgie. Donc c'est vraiment un des projets phares que l'on porte déjà depuis plusieurs années et que l'on s'apprête à concrétiser par une phase d'études de détail que l'on initie maintenant et qui nous mène effectivement à une mise en service au début de la décennie prochaine avec entre-temps aussi le développement de davantage d'énergie photovoltaïque pour pouvoir être consommée le soir et la nuit alors qu'aujourd'hui on la consomme exclusivement en journée.
Et autre argument en lien avec l'actualité, cette nouvelle technique permet aussi d'être moins dépendant des énergies fossiles et donc des cours mondiaux.
Et puis Nicolas, des idées qui valent la peine d'être partagées. Ce slogan, c'est celui des conférences TEDx. Elles font leur grand retour en Calédonie cette année.
Concept américain apporté en Nouvelle-Calédonie en 2016 qui permet aux participants de parler d'un sujet de leur choix. L'originalité, c'est le format, une conférence courte et presque théâtrale, faite pour capter le public. Alors il n'y a pas eu de TED Talk à Nouméa depuis 2023, mais après 10 années d'existence, Guénolé Bouvet, l'organisateur de TEDx Nouméa, a décidé qu'il était temps de relancer l'événement.
L'envie, les demandes de la part du public, les gens que je croise et qui me disent « Alors, quand est-ce que ça va avoir lieu la prochaine édition ?» Alors, on sait que c'est pas facile parce qu'il y a un contexte économique qui est compliqué, mais on se dit qu'on va de toute façon réussir par la porte ou par la fenêtre. Il y aura un TEDx Nouméa en 2026. Les gens vont nous faire des propositions. C'est certain qu'ils vont refléter les années qui viennent de s'écouler. On va forcément avoir des sujets qui changent, des sujets qu'on entend d'habitude dans les TEDx Nouméa. Donc, c'est encore plus intéressant, j'ai envie de dire. Ça va forcément apporter un éclairage qui sera peut-être nouveau, peut-être un pas de côté. Je pense que ça va être très intéressant.
Et les inscriptions pour les auditions sont ouvertes. Celles-ci se tiendront en juillet. Les personnes retenues seront ensuite coachées avant l'événement qui devrait se dérouler en fin d'année. L'exercice peut paraître intimidant, mais Guénolé Bouvet souhaite inciter les personnes intéressées à se lancer.
Qu'est-ce que j'aurais envie de dire aux personnes qui se disent « Ah non, mais ça, c'est pas pour moi ». En fait, si vous avez vraiment un sujet voilà, qui vaut le coup, qui sort de l'ordinaire, une passion, un métier, un engagement associatif, une expérience, une invention, tout ça, ça vaut le coup d'être expliqué, partagé. Et comme il y a un processus de préparation, bah vous ne serez pas lâché dans la nature tout seul face à 300 personnes dans une grande salle. Non, ça ne va pas se passer comme ça. On va y aller progressivement. On va construire ensemble le texte. On va surtout beaucoup s'entraîner. Tellement s'entraîner que ça va devenir plus naturel. Ça va rentrer dans la zone de confort.
Et pour s'inscrire, il faut se rendre sur le site internet tedxnouméa.org. L'événement se tiendra en fin d'année. Comme toujours, les conférences seront enregistrées et diffusées ensuite sur la plateforme internationale TEDx Talks.
Les centres de loisirs en difficulté, les organismes qui délivrent les diplômes du BAFA et du BAFD et qui forment les dirigeants et les animateurs des centres ont décidé d'écrire au gouvernement. Depuis le 1er janvier dernier, l'État ne délivre plus en effet de diplômes sur le territoire car la compétence revient à la Nouvelle-Calédonie. Mais aujourd'hui, le territoire ne s'est pas encore doté des textes de loi nécessaires pour continuer à proposer cette formation. Écoutez, Brieux-Pierre Large, le directeur des villages de Magenta, il était ce matin notre invité à 7h30.
La jeunesse, on a toujours dit que c'était une priorité, mais nous, on le vit au quotidien et on voit bien qu'on n'est pas une priorité. Et c'est une de nos craintes, c'est pour ça qu'il y a un courrier qui part aujourd'hui. Les organismes de formation BAFA-BFD, on est 5, on s'est constitué en collectif pour le moment. Donc on va adresser un courrier au gouvernement pour pouvoir faire accélérer peut-être, je ne sais pas, pour faire accélérer, mais en tout cas pour faire partie de ce travail-là, d'arrêter d'application pour pouvoir faire en sorte que ces diplômes collent à la réalité. On a une expertise puisque nous sommes affiliés à des fédérations métropolitaines qui forment des dizaines de milliers d'animateurs. Donc je pense qu'on a une analyse qui est rigoureuse de ces diplômes. Donc on demande à être pleinement associé, on espère l'être.
Dans cette profession, le turnover est important, si bien que la Nouvelle-Calédonie formait jusqu'à l'an dernier une centaine de professionnels, des centres de loisirs qui risquent de ne pas avoir suffisamment de personnel cette année pour pouvoir ouvrir et accueillir les enfants jusqu'en décembre. De plus, les centres de loisirs font face également à la baisse des aides accordées aux familles par les institutions. Certaines familles n'ont plus les moyens aujourd'hui de faire garder leurs enfants. Brieux-Pierre Large, le directeur des villages de Magenta, affirme que les centres de loisirs jouent pourtant un rôle social important en occupant les jeunes.
On le voit au quotidien, on travaille dans les quartiers. Nous, on est dans le quartier de Magenta Aérodrome, donc on le voit bien. Il y a de plus en plus d'enfants et des petits enfants. C'est des enfants qui ont entre 3 ans et 10 ans, qui traînent dans la rue tout seuls. Nous, c'est une problématique pour nous, parce qu'on sait que l'oisiveté mène à la délinquance. Les enfants de cet âge-là n'ont rien à faire dans la rue et devraient plutôt être encadrés. L'école est obligatoire. Je ne dis pas que les centres de loisirs devraient être obligatoires, mais l'occupation du temps libre de l'enfant, qui représente un temps énorme, devrait être mieux pris en compte par l'administration. C'est juste une volonté politique de le faire. Donc on pense que ce dossier doit être pris à bras-le-corps par les différentes collectivités, que chacun arrête d'agir chacun de son côté, chaque administration chacun de son côté, qu'à un moment donné on se réunisse, qu'on réunisse les moyens financiers, et puis qu'on puisse proposer des solutions pour que les enfants soient occupés pendant leur temps libre. Peu importe que ce soit du centre de loisirs, du sport, culture, etc.
Brieux-Pierre Large, le directeur des villages de Magenta. Il était ce matin notre invité à 7h30 et vous pouvez retrouver cette interview sur rrb.nc. À 11h46, une nouvelle pause. Dans un instant, l'actualité à l'étranger et le blocus américain dans le détroit d'Ormuz imposé par Donald Trump. On fait le point dans un instant.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052. ORIAS 13 103.
Votre tranquillité d'esprit avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Mazda, des véhicules à découvrir. Mazda, un monde d'élégance, de raffinement et de performance. Mazda Citadine, Mazda SUV et compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda, des véhicules et des offres exceptionnelles sur toute la gamme. À visiter dès à présent en concession au showroom Mazda, situé 174 rue Auguste Bénébigue, Magenta. Mazda vous souhaite une bonne route.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal, l'actualité dans le monde et en métropole avec Jean-François Bodin.
Donald Trump veut asphyxier l'Iran. Après l'échec des négociations ce week-end, le cessez-le-feu reste fragile et le détroit d'Ormuz reste contrôlé par l'Iran qui bloque le trafic maritime international. Les USA ont donc mis en place cette nuit pour nous un blocus pour empêcher la navigation des bateaux iraniens, mais aussi de ceux qui viennent délivrer leur cargaison dans les ports iraniens. Laura Legault pour Europe 1.
Donald Trump l'affirme, les Américains peuvent tenir ce blocus pendant longtemps. Selon un haut responsable qui s'exprime auprès du Wall Street Journal, une quinzaine de bâtiments de la marine américaine sont déployés à l'est du détroit. L'objectif, surveiller les mouvements des navires à l'aide de drones, d'avions et de satellites, comme l'explique le général Dominique Trinquant.
Ces bateaux sont un instrument dissuasif, c'est-à-dire que si des bateaux venaient à contrevenir aux directives américaines, ils annonceraient aux bateaux de faire demi-tour ou ils montraient une inspection préalable à une éventuelle action de force sur ces bateaux.
Car ce n'est pas un blocage total du détroit. Une note de l'US Navy indique que seuls les navires à destination ou en provenance des côtes et des ports iraniens seront bloqués par l'armée américaine. Les navires qui ont payé un droit de passage à l'Iran sont aussi concernés. Ceux qui ne font que transiter sans lien avec Téhéran pourront traverser le détroit sans encombre selon le gouvernement américain. Dès l'entrée en vigueur du dispositif, Donald Trump a menacé l'Iran. Tout navire iranien qui tenterait de forcer le blocus américain sera immédiatement éliminé.
L'action politique réside dans la justice sans laquelle il ne peut y avoir de paix authentique. Ce sont les mots du pape Léon XIV au premier jour de son voyage en Algérie. Le Saint-Père a évoqué, sans la nommer, la situation au Moyen-Orient et dans les zones en conflit. Un premier discours dans lequel il a insisté sur le pardon pour ne pas apporter du ressentiment au ressentiment de génération en génération.
Les autorités sont appelées non pas à dominer, mais à servir le peuple. et à favoriser son développement. L'action politique réside donc dans la justice, sans laquelle il ne peut y avoir de paix authentique, et s'exprime par la promotion de conditions de vie équitables et dignes pour tous.
Le pape qui a été critiqué de façon virulente par son compatriote, le président américain, ces derniers jours. Pas question pour autant de répondre à ses attaques, a précisé Léon XIV dans l'avion qui l'emmenait vers l'Algérie.
Non, pas de réponse. Ce que je dis, c'est que la mission de l'Église est très claire. L'Évangile dit, Jésus dit, bénis soient les artisans de paix.
Le pape qui poursuit son voyage en Algérie à la nuit prochaine pour nous, il se rendra à Annaba, l'ancienne Hippone, où a vécu saint Augustin. L'Algérie qui a été théâtre d'un attentat kamikaze à Blida, à 50 km d'Alger. Deux hommes se sont fait exploser devant un commissariat et un complexe sportif de cette ville qui fut le fief du GIA. Un attentat au premier jour de la visite du pape qui n'est sans doute pas un hasard, selon l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt.
C'est curieux, alors qu'Alger est une ville quadrillée par la police et la gendarmerie, jusqu'à Blida, où a eu lieu l'attentat, qu'il y ait quand même un attentat au moment où le pape vient à Alger. Alors la presse algérienne n'en parle pas, évidemment, mais sur les réseaux sociaux, vous avez des photos.
Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger, notez que cet attentat n'a pas été revendiqué. En métropole, Sébastien Lecornu fait marche arrière sur le 1er mai. Le Premier ministre avait ouvert la boîte de Pandore en proposant d'étendre la possibilité de travailler le 1er mai à certaines professions. Proposition qui s'était heurtée à une levée de boucliers, notamment de la part des syndicats. Le texte a finalement été retiré. Thomas Guignot pour Europe 1.
Dépassionner le sujet, c'est l'objectif de Sébastien Lecornu après trois jours de polémique venue des syndicats, mais aussi de la gauche, qui menaçait de déposer dès demain une motion de censure. Alors le gouvernement veut calmer le jeu en commençant par renouer le dialogue social, comme tout à l'heure lors d'une réunion avec les syndicats au ministère du Travail qui a acté le report définitif de la proposition de loi. Le nerf de la guerre, c'est de monter un plan de sauvegarde pour toutes les professions concernées, explique une source gouvernementale qui insiste sur le fait que l'autorisation de travailler le 1er mai ne doit concerner que les petits commerçants indépendants, pas les grands groupes. Toujours est-il que ce délai sonne comme un aveu de faiblesse puisqu'il est en quelque sorte imposé au gouvernement face à la menace d'une censure, d'une assemblée fracturée, sans majorité et un parti socialiste nécessaire au maintien en place de l'équipe gouvernementale. Sébastien Lecornu sait qu'il a peu de marge de manœuvre. Un report pour ne braquer personne dans les mois qui viennent donc. Un choix dénoncé par le patron des LR Bruno Retailleau qui regrette un recul de l'exécutif et fustige, je cite, les capitulations à répétition.
Thomas Guignot pour Europe 1. Et puis l'actualité en métropole, c'est aussi ce drame à Villefranche-sur-Saône au nord de Lyon. Un garçon de 13 ans a été tué d'une balle en pleine tête dans un quartier sensible de la ville. Deux suspects sont en garde à vue, âgés seulement de 12 et 15 ans. Difficile pour l'instant de savoir ce qui s'est passé, mais la thèse de l'accident n'est pas écartée par les enquêteurs. C'est un jeu qui aurait pu mal tourner, explique le petit cousin de la victime.
Un gamin de 12 ans, je pense pas qu'il peut de règlement de compte et tout ça, c'est juste n'importe quoi. Ça devrait être un accident. Après, on ne sait pas, on attend de voir. Bien évidemment, c'était pas un agité. C'est un gamin normal, comme tous les gamins de 12-13 ans. Priorité, jouer au ballon, jouer au foot avec ses amis. Donc, pour l'instant, on est sous le choc. C'est triste. Et on attend de voir vraiment ce qui s'est passé.
Voilà, l'enquête devrait donc permettre d'en savoir plus sur ce drame dans lequel un garçon de 13 ans a été tué d'une balle dans la tête. Il est 11h54, la dernière pause de ce journal avant l'actualité sportive, notamment du football. Le PSG joue demain pour une place en demi-finale de Ligue des Champions.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Le Blue Bat Trail revient. Dimanche 26 avril, venez vivre un trail pas comme les autres. Un événement sportif, familial et éco-responsable. En 2023, 2200 arbres ont été plantés et avec l'association Calédocline, chaque participant contribue à protéger notre environnement. Cette année, 4 distances pour tous les niveaux. 3 km pour les familles, nouveauté, un 8 km accessible à tous et des parcours 11 et 15 km visités pour encore plus de challenges. Le 15 km, une course pro-série, deuxième étape du Punch Power Trail Pro Tour. Blue Bat Trail, courez, plantez, protégez. Info et inscription sur www.proevents.nc.
Nico Sushi Bar, votre restaurant sushi depuis 1998. Sur place de 11h à 14h et à emporter de 9h à 19h30. Mardi et samedi, tous les sushis à 350 francs. Mercredi, moins 15% pour les familles. Et vendredi soir, sushi à volonté. Téléphone 25 11 88, Facebook Nico Sushi Bar.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
La fin de votre journal, l'actualité footballistique avec Jean-François Baudin.
Oui, objectif demi-finale de Ligue des Champions pour le PSG. Demain matin pour nous, les Parisiens jouent leur quart de finale retour sur la pelouse de Liverpool. Après leur victoire 2-0 au match aller, ils sont en bonne position. Et même s'ils ont dominé ce match aller, leur entraîneur Luis Enrique se méfie d'un match piège qui sera beaucoup plus compliqué que le match aller, dit-il.
Pour moi, c'est un match piège. Tu as gagné les premiers matchs, tout le monde parle qu'on a été très supérieur, mais le football et les matchs changent très vite. Tu peux concéder un but dans les premiers mi-temps et le match est encore ouvert. On aura des difficultés.
Liverpool-PSG, c'est donc demain matin. De son côté, le FC Barcelone se déplace sur le terrain de l'Atlético Madrid et est condamné à l'exploit après s'être incliné 2-0 à domicile au match aller. Les deux autres quarts de finale retour de cette Ligue des Champions se joueront jeudi matin. Le Bayern recevra le Real Madrid et Arsenal recevra le Sporting Portugal. Et puis du football aussi dans la région avec la 12e journée de l'OFC Pro League cet après-midi. À 14h, Tahiti United, 6e, affronte le South Island United, 4e. En cas de victoire, l'équipe polynésienne et ses trois Calédoniens reviendraient à égalité de points avec son adversaire du jour et resteraient à deux journées de la fin dans la course aux demi-finales. Il est 11h56, restez bien avec nous, c'est la fin de ce journal, mais dans un instant, nous allons ouvrir le magazine Citoyen. Nicolas Legrand et ses invités parleront cette semaine des 40 ans du SIFI Club. Bonne journée à tous.